Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à tous, bienvenue dans Sadera et l'émission sur un sport cruel, très très cruel. Et oui, parce qu'aujourd'hui, le Tour des Flandres approche, mais ce sera sans Van Aert qui a chuté sur à travers les Flandres. La Flandre, pardon, clavicule cassée, sept côtes aussi cassées. Le Belge est donc forfait pour le Tour des Flandres, laissant un Mathieu Van Der Poel un petit peu tout seul sur ce Tour des Flandres. On parlera des conséquences donc, de cette chute et de cette blessure hein, pour Wout Van Aert dans une première partie. Avant de ça, on parlera d'une preview assez classique du Tour des Flandres. Ça sera un petit peu plus tard donc. Et il y aura aussi on attaque pas parce qu'il y a pas mal de choses qui sont passées dans le vélo. Et avec moi aujourd'hui, alors il a été ban de X, il s'est fait bloquer par de nombreux utilisateurs et de suiveurs, mais cette fois-ci, il aura bien la parole et vraiment une parole très très libre là aujourd'hui, puisque vous avez remarqué, nous sommes que de ça, YouTube.
Bonsoir à toutes et à tous, que vous soyez en podcast sur Twitch ou en différé sur YouTube.
Je vous ai envoyé, pour tout vous dire, un petit lien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on devait avoir le grand Anthony Colas. Vous savez, c'est normal, les pavés arrivent, il est souvent là au moment où on l'attend. Jamais. Le problème, c'est qu'il y a un petit problème. C'est qu'il y a Wout Van Aert qui a chuté, il a décidé de ne pas venir. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il a eu un problème de toiture. Alors, figurez-vous qu'il y a du vent en France et que du coup, eh bien, Anto, malheureusement, il a une toiture en vrac et soit il dort à la belle étoile, soit du coup, il répare un petit peu les dégâts qui sont passés. Donc du coup, les gens qui veulent participer, renvoie le petit lien Discord. Ils sont invités à prendre la parole s'ils sont dans le chat et on leur donnera bien sûr la parole. C'est inédit, c'est normal, c'est une grande première. On n'a pas l'habitude d'avoir des problèmes de toiture. Donc il y en a qui ont l'habitude, qui sont déjà venus, mais n'hésitez pas si vous avez besoin. En attendant, Atib, est-ce que t'es chaud ? Parce que là, ça va être un long tunnel, mais on va kiffer quand même ce podcast un peu particulier. Est-ce que t'es prêt pour assurer le tempo ?
Je suis prêt pour assurer le tempo et sortir de ce tunnel du Turquino.
Ah, bon, c'est parfait. C'est passé, le Turquino.
Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui. Hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant. Hein.
Bon, on a à peine eu le temps de s'en remettre, hein, bien sûr. Hein. Il y a quelques heures, à travers la Flandre, grosse chute avec dedans. Donc, Jasper Stuyven, Pedersen aussi, Irmé. Mais surtout, le grand Wout Van Aert. Hein, Van Aert qui nous a fait mal au cœur. Hein, le type, je suppose aussi, hein, puisqu'on a entendu ses cris hein, de la télé, du canapé, là où on était. Résultat, donc, la clavicule cassée, des côtes cassées aussi. Pas de Tour des Flandres, bien sûr. Pas de Paris-Roubaix. Pas d'Amstel. Et pas aussi de beaucoup. Ou l'autre chose, j'ai l'impression. Bon, première question, c'est la plus simple, type. C'est vraiment une grosse perte, on va dire. C'est le scénario qu'on n'aurait pas voulu, vraiment.
Bah, exactement. Si tu me poses la question si c'est une énorme perte, évidemment, Wout Van Aert, on le sait, avait construit un peu sa préparation et son travail hivernal et printanier sur les deux monuments à venir. Et on aurait dû juger un peu cette prise de risque, cette sortie de sa zone de confort des dernières années sur ces deux événements. Malheureusement, encore une fois, on va être privé d'un grand rendez-vous au sommet, comme l'année dernière. L'année dernière, la crevaison nous a privés d'une potentielle joute sur le vélodrome de Roubaix. Elle nous a aussi privés par une chute d'un mano à mano sur Liège-Bastogne-Liège. Et les années se suivent et se ressemblent malheureusement du côté des incidents sur les monuments qui nous émaillent nos plus grands duels des temps modernes.
Ouais, parce qu'il y a eu Pogacar sur le dernier Liège Bastogne-Liège. Vraiment, en fait, on a pas de chance. Hein. C'est malheureusement assez souvent le cas sur les grands rendez-vous. On aimerait avoir ce duel. Même Mathieu Van Der Poel aurait aimé avoir ce duel. J'en suis sûr. On aura le temps d'en parler. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Donc sur ce Tour des Flandres. Alors. Petite question. Si c'est parce que ça a beaucoup jasé sur X avec donc c'est cette chute de Wout Van Aert. Alors on a dit dans un premier temps, c'est de la malchance. Et voilà, encore une fois, il est maudit, Van Aert, il est allé au tapis. La chute, est-ce que c'est vraiment de la malchance? Quand on la voit en replay, en plus, je crois que tu as fait avec des effets spéciaux dignes de Spielberg, une petite loupe sur ce qui s'est passé pour avoir la meilleure vue sur cette chute. Malchance ou alors c'est mal manœuvré à ce moment-là, surtout que Bennett après derrière en conférence, enfin en zone mixte, a dit oui c'est il a pris ma roue au moment où j'ai relancé, donc il n'y a pas que de la malchance, j'ai l'impression.
Bah tu veux des arguments pour ou des arguments contre?
Non, mais attends,
Gilou pour son émission m'avait demandé de lui faire une fiche, je lui en avais fait des pour et des contre, donc ouais. Je peux te livrer les deux arguments et les deux totales oppositions.
Moi, je prends le pour et le contre, ce que tu veux, et moi, je ferai l'inverse comme ça. On sera comme ça des petits duels entre les deux.
J'ai envie de te dire non, c'est pas vraiment de la malchance. Si on doit pointer une responsabilité, elle serait plus sur deux autres responsables. La première, Benoît, tu l'as dit, il l'a confié en interview, et avec le replay, on le voit. Il y a une concordance entre les dires et les faits de Tish Benoît. Benoît a malheureusement fauché de manière involontaire son leader et coéquipier Wout Van Aert en partant sur le go que Wout lui avait donné, en se mettant en danseuse dans une descente, malheureusement, mouvement dangereux, j'ai envie de te dire, et c'est, je crois, du côté de Twitter.
Tu cherches la personne.
Je ne sais plus qui avait souligné ça, j'ai vu tellement de tweets passer, mais c'est une opération en général qui est dangereuse, et quand quelqu'un te fait ça en peloton, t'as juste envie de le tuer. Et la deuxième des responsabilités à mettre, et surtout principalement, c'est du côté des organisateurs. Flanders Classic, à la suite de la chute de Bini l'an passé, a choisi d'évincer sur cette édition du Ronde la descente du Canaryberg en la remplaçant par le nouveau Kreuzberg. Et pourquoi elle ne l'a pas appliqué? Elle n'a pas appliqué ce choix sur le Dors Van Vlaanderen quand la justification repose sur la sécurité des coureurs. On l'a vu, en plus, comble de l'ironie, une récente enquête d'un média flamand pointait un peu justement les endroits dangereux des courses suivant l'avis des coureurs, et de l'avis majoritaire des coureurs, le Canaryberg ressortait de la bouche de Wout Van Aert, de Stuyven, ce qui est encore plus ironique, de Benoît, de Philipsen, de Vermeersch et de De Beust.
Oui, mais alors, on a dit ça, évidemment, que c'était une descente un peu dangereuse, mais on n'a pas l'impression que c'est la chaussée qui a fait chuter Wout Van Aert. Alors, pour dire, et on en a déjà parlé, je crois, dans les derniers épisodes, pour ceux qui sont habitués, j'ai subi la même chute, et je peux le dire maintenant, aujourd'hui, la même chute dans le Galibier, par Jérémy Sakian, à qui j'ai accroché la roue lorsqu'il était devant, exactement pour la même chose. Donc voilà, donc je sais ce que c'est, voilà, j'ai subi la même chose. Pas évidemment pas la même chose derrière en termes de conséquences, mais voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas là, il y a pas vraiment une, c'est pas une, c'est pas la chaussée. Après, ça emmène tout le monde, c'est sûr. Après, cette descente, elle est rapide, etc. Mais c'est pas la chaussée qui incombe là cette fois-ci. J'en ai l'impression.
Non, c'est pas du tout la chaussée, c'est les circonstances. On le sait, la descente du Canaryberg, c'est une descente qui est absolument pas technique. Le problème, en fait, de cette descente, c'est que c'est le moment de la course et le nombre de coureurs dans le peloton qui la rendent dangereuse. Parce qu'on le sait, en son bas, pour aborder justement la montée du Canaryberg, bah, t'as un virage qu'il faut aborder en tête pour relancer et ne pas subir le coup d'élastique. Donc les coureurs le pointent, hein. Ils ne pointent absolument pas la technicité de la descente, mais sa dangerosité, parce que il y a trop de monde dans le peloton à ce moment-là, trop de monde veut être placé en première position, ça frotte beaucoup trop, et chaque année tu vois des incidents dans cette course. Donc maintenant, oui, si tu veux partir sur le oui, bah c'est un peu c'est pas que de la malchance, j'ai envie de te dire que c'est terrible, mais à la fois, certains le diront, hein, tu crées ta propre chance et la malchance, bah, parfois, tu vas la chercher. On le voit, il y a aussi l'adage, les absents ont toujours tort. Bah, j'ai envie de te dire que cette fois, l'adage est totalement faux, puisque les absents de marque, à savoir Mathieu Van Der Poel et Matej Moric, se réjouiront de ne pas avoir pris le départ de cette course et d'avoir évité cette chute.
Oui, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Parce que ça aussi, c'était un autre débat sur qu'est-ce qu'on peut lui en vouloir de s'être aligné sur cette course. C'était son projet. Il a abandonné l'idée d'aller sur Milan-San Remo, une course qui peut largement lui convenir, pour se concentrer que sur ses classiques, ce Tour des Flandres et ce Paris-Roubaix. Donc, il avait tout millimétrer sa préparation, il se retrouve sur cette course pour finaliser ce qu'il avait mis en place, et on lui est tombé dessus en mode il aurait jamais dû aller sur cette coursette et tout. Mais au bout d'un moment, est-ce que vraiment on peut échapper au destin? Bon, ça c'est un peu philosophique, mais est-ce que vraiment, toi Latib, est-ce que tu penses que c'était une mauvaise idée de s'aligner sur ce genre de course? On peut jamais savoir s'il y a une chute.
Bah, je vais être tempéré et après je vais être un peu plus dans l'extrême. Je vais être tempéré en te disant qu'on peut être hors jeu n'importe quand dans la saison. Tu peux être victime d'un incident de cours, un incident clair. En entraînement. Tu peux risquer de contracter la maladie de Lyme. Tu le vois avec Arnaud Delis totalement en dehors des compétitions, et surtout, bah, aucune course n'est exempte de risque. T'as Dylan Van Baarle qui a chuté sur le 3, t'as Yann Trakny qui a chuté sur Grand Vélodrome. Ouais. Donc, les chutes, tu ne peux pas les éviter. Maintenant, si tu veux rentrer dans l'extrême, Wood Van Aert a ciblé ces deux courses. Maintenant, tu sais qu'il y a quasiment plus de préparation et qu'il a fait pas mal de stages. Il a évincé Milan-San Remo de ses compétitions. Bah, tu peux te poser la question un peu extrême. Pourquoi? Il n'a pas pris le maximum de sécurité et il ne s'est pas aligné que sur ces deux courses.
Bah, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est que on peut peut-être pas. En fait, il a fait un petit peu moins en termes de cyclo-cross et tout. Il avait besoin de retrouver un petit peu de rythme. C'est d'ailleurs ce qu'on dit d'ailleurs dans le chat. Hein, il a peut-être besoin encore de retrouver un petit peu de rythme. On l'a vu un peu à court sur le cyclocross, c'était différent, mais dans le duel avec Mathieu Van Der Poel, le duel n'y a pas eu. Et puis derrière, on a vu qu'il n'était pas aussi performant qu'avant. Donc je suppose que c'était l'idée de faire encore un petit peu de jus derrière. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? Et puis, Cactus sur un vélo qui dit le rythme de course ne se retrouve pas forcément à l'entraînement, sauf pour Mathieu Van Der Poel, j'ai l'impression, parce qu'il était plutôt pas mal sur Milan-San Remo.
Ou Tadej Pogacar.
Ouais, bon, bah ça, ce sont des extraterrestres, j'ai l'impression. D'ailleurs, on a mis Mathieu Van Der Poel, Pogacar et Vingegaard dans une liste dont Van Aert ne fait plus partie depuis quelque temps. Ça, c'était un autre débat. Mais on va essayer de parler plutôt de la saison de Van Aert, parce que vous l'avez compris. Donc, pas de Tour des Flandres, pas de Paris-Roubaix. C'était le point majeur de sa saison 2024. Ça va être compliqué derrière, même pour aller sur le Giro. T'en penses quoi, Tim?
Bah, tu regardes le bilan médical, tu vois une clavicule. Bon, tu te dis que Sénéchal a repris la compétition après
clavicule,
deux semaines.
L'habitude, ça peut, c'est un rhume pour
ça. Ça peut le faire. Une fracture costale, j'ai regardé, en moyenne, c'est 4 semaines. Une fracture du sternum, c'est 4 semaines sans effectuer d'effort, 6 à 8 semaines de consolidation, et tu peux aller jusqu'à 2 mois. Donc, on peut penser, et au vu des déclarations du médecin ce matin, il disait que ce serait peut-être compliqué d'être sur le Giro, puisque on va éviter de au niveau des côtes surtout, qui est le moindre choc pendant une période de consolidation. Donc maintenant, les objectifs vont peut-être se diriger vers le Tour de France en guise d'aide pour Jonas Vingegaard et surtout de préparation.
Mais la liste est déjà parue, non ?
De quoi ?
Sur le Tour de France, la liste est déjà parue, il n'est pas dedans ou il
oui,
met encore une petite
mais
place ?
Tu peux toujours modifier, mais pour le moment, c'est une liste qui est provisoire. Tu ne sais pas de quoi la saison est faite. Regarde, on avait une liste provisoire pour le Ronde van Vlaanderen et au fur et à mesure, elle s'est émaillée pour les Jumbo-Visma du fait des blessures. Donc, elle peut toujours se modifier. Tu peux toujours remplacer Wout van Aert, qui est un véritable couteau suisse et qui peut remplacer n'importe qui dans cet effectif. Donc, il n'y a pas vraiment de gêne dans un effectif quand tu remets Wout van Aert sur le Tour de France, qui préparera les JO et les Mondiaux de Zurich. Où, je vais me faire une petite pub, alerte spoiler, je sortirai du côté de Vélo Futé un article sur le parcours avec toutes les photos et ça expliquera sans doute pourquoi, pour moi, c'est mon favori du Mondial de Zurich.
Ouais, surtout qu'il aura un esprit de revanche. Tiens, on va donner la parole à Cactus qui est sur un vélo, mais sur Discord avec nous pour en discuter puisque nous avons invité les personnes à venir parler puisque nous avons eu quelques défections. Alors, qu'est-ce que tu attends de le reste de la saison de Wout van Aert?
Je pense effectivement que pour le Giro, ça risque d'être tendu. Je pense que c'est pas inenvisageable qu'il soit au départ du. Enfin, théoriquement, qu'il soit au départ du Giro, mais s'il n'est pas en forme, ça ne sert à rien pour lui, je pense. Et j'avais vu quelqu'un qui proposait sur le forum du groupe Eto d'échanger en gros Laporte et Van Aert, mettre Laporte avec Coy sur le Giro, pour que Coy ait quand même un bon lanceur pour ça, et du coup Van Aert sur le Tour de France. Mais oui, je pense que ces deux objectifs principaux maintenant, ça reste les Jeux et les Mondiaux. Enfin, c'est quatre objectifs du coup, parce que je pense que les chronos, ça l'intéresse aussi. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit vraiment que équipier, qu'il fasse le Giro ou le Tour ou aucun des deux, quoi.
Mais enlever Christophe Laporte du Tour de France alors qu'on sait que la Visma a besoin de se faire aimer. Et donc d'avoir un Français dans l'équipe, c'est souvent un atout charme. Tu penses que la Visma serait prête à faire ça, par exemple ?
Sportivement, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Après, oui, à ce niveau-là, on ne sait pas à quel point ça en est. Et voilà, pour peu qu'ils décident d'aligner Laporte au championnat de France et qu'ils gagnent le championnat, ça jouera forcément aussi. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. De toute façon, on est fin mars, il y a encore 3 mois avant le départ du Tour, il y a largement le temps d'avoir encore des chamboulements.
Ouais, d'ailleurs, dans le chat, on n'est pas forcément d'accord avec toi, mais on dit que Laporte passe sur le Tour, j'y crois pas, pour Ben Cassé-Fréter, donc qui ne croit pas ce changement, ce petit switch. Et alors, par rapport à cette chute sur le Tour des Flandres, Natib, est-ce que le Tour des Flandres a perdu de son aspect, de sa brillance ?
Évidemment.
Est-ce qu'on va perdre la moitié des téléspectateurs dimanche pour regarder le Tour des Flandres ?
Les Belges, en tout cas.
Les Belges, c'est vrai que on perd sa grosse tête d'affiche et même ses deux grands prétendants, puisque on l'a vu au fur et à mesure de cette campagne de classique, le collectif Visma Lease a Bike s'est effrité. Mais il y en a un autre qui est monté en puissance, à savoir les Lidl Trek. Et les Lidl Trek avaient un Jasper Stuyven qui, pour moi, faisait figure d'épouvantail sur ce Ronde van Vlaanderen. Si on est parté dans un scénario d'anticipation, je ne l'ai jamais vu aussi en forme que quand il était aligné sur sa victoire à Milan-San Remo. Il volait véritablement. Il y avait un collectif qui était bien huilé, qui marchait bien et qui roulait formidablement bien pour faire la nique à Mathieu Van Der Poel sur Grand Wevelgem. Donc, il y avait quelque chose à faire. Et maintenant, on perd Wout van Aert, on perd Jasper Stuyven, on a Bini qui est blessé et on a aussi Mats Pedersen qui a été pris dans la chute.
Ouais.
Visiblement, ces deux derniers, peut-être qu'ils seront alignés, mais quid en fait de leurs capacités qui n'auront pas été mises à mal au cours de cette chute. Déjà que Mats Pedersen, sur un tracé du Tour des Flandres, ça paraît parfois compliqué au vu du gabarit du bonhomme.
Cactus, tu vas regarder quand même le Tour des Flandres, tu es un amoureux de vélo.
Forcément.
Mais non, pas avec les mêmes yeux.
Ce que j'avais vu aussi qui va un peu dans le sens du moins d'intérêt, c'est qu'on pouvait penser qu'on aurait un Jorgensen qui serait un peu en électron libre, qui serait moins surveillé parce que Van Aert. Et là, du coup, ça risque d'être plus compliqué pour lui d'anticiper aussi.
Jorgensen, c'est la carte maîtresse, hein, type pour la Jumbo maintenant que Van Aert n'est plus là. On l'a vu sur À travers la Flandre d'ailleurs. il vole en ce moment. De toute façon, tout ce qu'il fait, c'est de l'or.
Ouais, et puis bon, en face, t'as un quoi, un Tish Benoit. Mais Tish Benoit, c'est pareil, il se remet un peu d'un début de saison compliqué. On a Dylan Van Barle, visiblement, qui a fait une bonne sortie ce matin, donc qui devrait potentiellement être aligné sur le round, mais en fait, quid de son état de forme, sans doute que ces deux derniers ne seront pas à 100%. Donc la vraie carte maîtresse, ça reste Jorgensen. Maintenant, il faut savoir comment manœuvrer face à Mathieu Van Der Poel quand tu es visiblement son adversaire principal.
Bon, on aura le temps de reparler du Tour des Flandres, ça serait dans la deuxième partie. Dernière question sur Van Aert, on va faire marche en arrière. La type, c'est quoi une saison qui peut être sauvée pour Van Aert, un titre de champion du monde? Ou est-ce que même ça suffira pas à combler cette blessure?
Ah, un titre de champion du monde, évidemment, ça comblera quand même un petit vide. Malheureusement, il a quand même axé pas mal de choses sur ces deux monuments. Il en a bouleverser toute sa préparation, forcément, tu l'attendais à ce moment-là et tu devais le juger sur ces deux événements et ce sera compliqué de le faire maintenant qu'il est évincé et qu'il n'a même pas la chance de pouvoir montrer qu'il avait raison de le faire et qu'il aurait pu remporter un ou deux de ces monuments.
Et il est maudit. Et est-ce qu'il va remporter, il va finalement remporter un jour, un monument de pavé, parce que ça a déjà été coché, mais un monument pavé, parce que c'est sa quête ultime, et ça fait un petit moment maintenant, hein, il est plus tout jeune en Arts, hein, et à la trentaine, hein, autour de la trentaine.
Ouais, bah je lui souhaite, il a quand même, on va se le dire, un palmarès qui n'est pas à la hauteur du talent qu'il est, donc oui, forcément, on lui souhaite de réussir là où il échoue depuis quelques années et où il échoue malheureusement du fait d'éléments un peu extérieurs. Il a été évincé du round il y a quelques années à cause du Covid. L'année dernière, il est évincé du final de Roubaix sur une crevaison. Il y a quelques années encore, il est évincé du final du round parce qu'il enchaîne les ennuis mécaniques. Donc, c'est un coureur qui malheureusement a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête qui ne cesse de le frapper.
Bien, Cactus, je te donne la parole avant qu'on passe à autre chose pour savoir dans quelles conditions pour toi la saison de Wout Van Aert peut être sauvée. Dans quelles conditions pour toi?
Je me posais la question, pour le coup, j'ai pas de réponse, mais est-ce que ce serait mieux pour lui d'avoir un titre olympique ou un titre mondial?
Mondial.
Parce que mondial, ça revient tous les ans. C'est plus, je veux dire, c'est parce que s'il rate le titre olympique là, je suis pas sûr qu'ils soient encore là en 2028 pour ça.
Après, ouais, on dit souvent après, ça, mais il y a le maillot.
Il y a les parcours.
Il y a le maillot que tu traînes toute une saison. Regardez comme Mathieu Van Der Poel est beau avec son cuissard, un coup blanc, un coup noir. C'est surtout ça. Et je pense que si on fait un quiz, bon, après, ça dépend qui est au quiz. Parce que si Anthony Colas, par exemple, c'est mort. Mais si on fait un quiz sur les derniers champions olympiques et les derniers champions du monde, je pense qu'on se souvient plus du monde, en tout cas en termes de palmarès, que pour les Jeux Olympiques qui sont pas encore, je trouve, pas encore assez entrés dans la légende du vélo, mais peut-être parce que
ça commence. Ouais, ça commence. On a des coureurs qui sont de plus en plus intéressés, mais le maillot de champion du monde, ça reste le graal absolu. Je suis désolé, un titre olympique, oui, c'est tous les 4 ans. T'as un vélo qui est paré d'or pendant 4 ans, mais les liserés, ça reste à vie.
Ouais, c'est exactement la phrase de Ben Cassefretter et dame. Dit que les JO serait plus important pour lui, exactement ce que dit Cactus. Donc voilà, il y a les avis divergent encore et tu faisais bien de te poser la question, Cactus. Reste avec nous, tiens, parce que garde ce micro tendu aujourd'hui. On va aller dans on attaque pas, il y a pas mal de choses, tu vas peut-être réagir sur 2-3 trucs.
Attaque de Pierre Roland encore une fois.
Personne ne réagit.
Alors, il y a pas mal de choses pour ce on attaque, on n'attaque pas. Du côté des garçons, il y a la nouvelle Arnaud Delis, donc, qui est donc la maladie de Lyme et qui se fait soigner en ce moment. Donc déjà, pas lui aussi de classique pavé. On parle de Wout Van Aert, mais bon, nos amis belges ne sont pas gâtés. Du côté français, Arnaud démarre aussi, grosse fatigue, pas de Paris-Roubaix pour lui. Ça, c'est ça aussi une mauvaise nouvelle, même si on ne l'attendait pas dans les premières places. On a les bonnes nouvelles quand même du côté de Decathlon AG2R avec Cosnefroy qui a remporté Paris-Camembert. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. On a aussi pour Decathlon AG2R pas mal de news aussi sur la Fay qui n'a toujours pas commencé sa saison à cause d'un syndrome rotulien. Il n'est pas encore revenu. Franck Bonamour coupé à cause de son anomalie. Sur son passeport biologique, hein, c'était pas avec Decathlon AG2R à l'époque, c'était avec BNB. Je préfère le souligner parce que voilà. Et puis on a aussi cette histoire racontée par Adrien Petit sur Gant Wevelgem qui a terminé sur route ouverte. C'est pas la première fois qu'on nous interpelle. Il y a aussi Glantine Rayet, aussi la coureuse qui avait ce même problème sur le trophée Alfredo Binda qui l'avait interpellé sur X aussi. Voilà donc pour les garçons. Et pour terminer, Demi Vollering qui va quitter la SD Works à la fin de la saison. Là, on est obligé de passer par ça parce qu'on est obligé d'en parler. Mais sinon, la type, qu'est-ce que tu veux souligner, même si tu as déjà commencé à parler de Delhi, mais peut-être autre chose dans tout ça.
Demi, honnêtement, qui quitte la SD Works, bon, par manque de moyens pour conserver ses deux têtes d'affiche avec l'Autocopici. Ouais, c'est fou, mais
pas avoir
moi,
les
je
deux.
Trouve ça bien.
Oui, mais de ne pas avoir... Alors, SD Works, je ne connais pas exactement le budget, mais de ne pas avoir la place pour ces deux salaires, c'est quand même énorme, parce que franchement, à chaque fois, on dit qu'ils peuvent payer, ils peuvent acheter...
Il y a Vibus.
Oui, il y a Vibus, il y a Kopecky, mais Kopecky, elle va prendre un sacré salaire hein, depuis qu'elle a replongé. Hein.
Oui, mais je trouve ça tellement bienvenu.
Ah oui, par contre, oui.
Rien que pour l'aspect concurrentiel, et puis on le voit hein, sur... cette saison un peu par certains moments et surtout l'année dernière et on a en souvenir l'Estrade et Bianchi, ces deux filles quand elles étaient ensemble dans un final elles avaient l'opportunité de se tirer dessus. Il n'y a pas de cadeau entre elles donc comparé tu vois à un Mathieu Van Der Poel et un Philipsen qui peuvent se rendre l'appareil là on n'hésite pas à se tirer dans les pattes donc non au niveau de la concurrence ça fera potentiellement du bien et je suis plutôt content et ça permet aussi de souligner du côté des féminines qu'on a eu une Marianne Vos qui a remporté sa 250e victoire en carrière et ça c'est pas rien.
Ouais et sur à travers la Flandre féminin aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas souligné, mais tu fais bien de le rappeler. Cactus sur Demi Vollering et donc la fin avec SD Works, tu voudrais la voir où? Parce que là aussi, il va falloir payer le salaire de Demi. Qui va pouvoir s'offrir le salaire de Demi Vollering?
Il me semble qu'il y avait eu des histoires avec d'offres d'UAE, de choses comme ça.
Ouais,
c'est vrai que UAE n'a pas une grosse leader. Enfin, il y a Persico, mais c'est pas Persico qui va aller gagner le Tour de France. Quoi. Oui. Donc, sportivement, ça pourrait être cohérent aussi là-bas. J'avais vu passer Lidl, après avoir qui reste chez Lidl, parce qu'il y a déjà Longo Borghini et Realini qui sont pas mal au niveau montagne. Donc,
Ouais, mais ça ferait une belle équipe pour concurrencer un peu cette XD Works. Il faut quand même une équipe qui est déjà bien implantée et une équipe forte. On a vu aussi que bon, la Movistar, elle, n'est pas intéressée, semble-t-il. Donc, on botte en touche du côté de Uzoué. À voir hein, si ce n'est pas aussi un coup de bluff, parce que tu as aussi l'occasion de récupérer la deuxième, enfin, la meilleure coureuse du monde après la retraite de Van Vleuten.
Ouais, mais on voit que chez Movistar, financièrement. Ouais, avant de passer à ça, financièrement, déjà,
le troisième que j'avais vu, mais pareil, c'est que des théories, c'était pourquoi pas Jumbo, enfin, donc Visma Lease a Bike, pardon, pour faire la fin, accompagner Vos sur la fin et remplacer Vos ensuite. Parce qu'il y a aussi, là, il y a aussi le côté néerlandais qui peut jouer.
Ouais. Et ça fait partie donc des pistes, évidemment, et on verra les rumeurs dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour le cyclisme féminin. La Tib, il y avait autre chose dans ce qu'on avait dans on attaque pas ou on va attaquer le Tour des Flandres? Il y avait autre chose que tu voulais? Non?
Non, bah après, il y a les problèmes qui sont un peu... J'ai pas envie de venir sur Décathlon et les problèmes, que ce soit des problèmes physiques comme des problèmes un peu plus... comportementaux avec Bonamour sur le problème de Grand Wevelgem et du trophée Obinda où on a des coureurs qui malheureusement terminent course route ouverte et hors délai alors que les délais ils sont dans les délais impartis et je trouve ça extrêmement dommageable pour le respect de ces coureurs qui font l'effort quand même de terminer la course et Adrien Petit n'était qu'à 3 minutes du peloton.
Ouais, il était pas très loin, à 8 minutes de la tête de course, je crois, c'est ce qui est écrit à un moment. Et puis pour les filles, c'était pareil. Hein. C'est très dangereux. Et nous, la sécurité, Dieu sait qu'on aime ça, surtout quand on voit les coureurs qui ne sont pas présents, notamment sur le Tour des Flandres. Ça fait la belle transition parce qu'on va allumer une petite mèche, hein, parce qu'elle n'est pas aussi grande qu'on le pensait, puisque voilà, Mathieu Van Der Poel, on a l'impression qu'il est un petit peu tout seul aujourd'hui.
Allez mon petit, on en remet là, on en remet.
Donc on revient sur les routes de Belgique avec donc le deuxième monument de la saison ce week-end avec le Tour des Flandres et un gros favori qui s'avance, un gros, je crois que c'est un peu faible, hein. Un gigantesque favori qui s'avance donc avec Casper Pedersen, non. Bien sûr, c'est pas ça. Avec Mathieu Van Der Poel, donc, surtout avec le forfait de Van Aert, avec donc Mats Pedersen touché. La Tibe, voie royale pour Mathieu Van Der Poel. Est-ce que tu le vois perdre? Est-ce que c'est possible qu'il perde? Est-ce qu'il y a un monde où Mathieu Van Der Poel laisse échapper ce Tour des Flandres? Autre chute. On a envie d'avoir une course sans problème, évidemment.
Évidemment, il y a toujours un monde où Mathieu Van Der Poel perd. Regarde, il a perdu face à Groenewegen, donc ça laisse oui. des opportunités et des espoirs pour les autres. Maintenant, les coureurs qui pouvaient le battre sont out de ce Tour des Flandres, donc faut savoir comment manœuvrer. Et pour Mathieu Van Der Poel, en fait, la tactique, elle est relativement assez simple. C'est un, si tu veux finir en solitaire, démailler un peu ce peloton comme il l'a fait l'année où malheureusement il perd contre Asgreen, il a miné dans chacun
ouais.
des monts.
Ouais, ouais,
pourquoi il a miné dans chacun des monts? Parce que il y a une stratégie à appliquer sur des gabarits comme Mats Pedersen, comme Lorenz Rex, comme Wout Van Aert, des coureurs qui sont lourds, et leur faire gaspiller au long de la journée, sur une journée où il y a quand même pas mal de dénivelé, sur une journée pavée, énormément de kilojoules pour qu'ils soient rabattent à la fin de la journée et qu'il soit totalement out. Et si tu arrives au sprint avec lui, miser sur un sprint court, un sprint explosif où il peut faire parler de son explosivité assez légendaire. Maintenant, on l'a vu, du côté des adversaires, il y a deux tactiques. Si tu arrives au sprint avec lui, la tactique Mats Pedersen, la tactique Casper Asgreen, lancer un sprint de loin pour le forcer à abandonner. Si tu es en mano à mano avec lui, Mathieu Van Der Poel, on l'a vu, son point faible, c'est les sprints longs.
Ouais.
Et si tu veux l'avoir, bah, l'avoir un peu comme l'année dernière, tu aurais pu l'avoir sans la présence de Tadej Pogacar, lancer un coup d'anticipation de loin. L'année dernière, ils avaient 3 minutes, ils étaient à quoi? À 50, 60 kilomètres de l'arrivée, bah, qui est un même groupe. Et là, qui pour aider Mathieu Van Der Poel dans cette situation, vu que Tadej Pogacar n'est plus là, bah, il sera bien tout seul. Donc là, tu as peut-être un espoir de le faire. Maintenant, Mathieu Van Der Poel est prévenu de cette tactique et son équipe aussi. Donc, va falloir qu'il annule un peu tous ces scénarios d'anticipation et peut-être qu'il trouve des alliés en cours de route. Et à ce petit jeu-là, je pense que la Jumbo-Visma, ayant du mal à anticiper, les aidera quand même à rouler. Et là, après, ce sera un peu plus tactique de ce côté-là.
Peut-être glisser un Philipsen dans un groupe pour éviter d'avoir à rouler et donc avoir cette cartouche dans, je ne sais pas, c'est peut-être une solution pour l'équipe de Mathieu Van Der Poel. Je vais poser la question à Gactus, qu'est-ce qui peut le faire vaciller? Parce que d'ailleurs, sur X, et les quelques observateurs disaient que en fait, ça serait encore plus dur pour Mathieu Van Der Poel d'aller remporter le Tour des Flandres, étant donné qu'il sera le seul favori et qu'avec Van Aert, il pouvait au moins un petit peu diluer la concurrence. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Cactus? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de l'emporter après?
Bah là, on a un peu évoqué son équipe aussi, mais c'est sûr que c'est pas ce qu'aurait pu aligner Visma Liesebike en pleine forme. Et même, il me semble que Vermeersch est tombé aussi sur Dwarf et qu'il n'est pas forcément en super bon état.
Tout
non
monde
plus.
Est tombé, de toute façon. J'ai l'impression que tout le monde tombe.
Mais donc, ça pourra être compliqué pour eux de rouler s'il y a un gros groupe qui sort comme l'année dernière. Après, du coup, je pense qu'ils vont essayer d'être plus attentifs aussi et de ne pas laisser partir s'il y a Kung et Pedersen qui attaquent à 100 bornes.
Et tu es d'accord donc avec cette analyse pour dire que Van Der Poel aura plus de difficultés à battre la concurrence en solitaire plutôt qu'avec Van Aert à ses côtés? Quand je dis à ses côtés, évidemment, c'est un adversaire, mais bon, vous m'avez compris.
Bah, Van Aert et Pogacar l'année dernière.
Ouais.
Parce que, pareil, UAE a bien roulé aussi l'année dernière, etc. Ça a joué aussi. Donc là, c'est sûr que quand on passe de deux équipes solides pour rouler avec lui à Alpecin tout seul, même si effectivement il pourra y avoir des alliés de circonstance, En principe, ça va être plus compliqué. Après, il peut quand même partir tout seul un moment et puis rattraper tout le monde.
On a aussi, et tu en as parlé tout à l'heure, Thib, avec la Lidl Trek, une concurrence, hein, évidemment, avec peut-être la plus forte, sur le papier, la plus forte formation de ces classiques. Malheureusement, on a perdu Stuyven, tu le disais tout à l'heure. Mats Pedersen, on a aussi quelques interrogations. A priori, tout va bien. Mais bon, quand on a subi une telle chute, c'est jamais anodin. On est peut-être un petit peu à diminuer. Il suffit d'être à 98% à place de 100% et tout de suite, ça va beaucoup moins bien. Mais on a encore Jonathan Milan, on a encore Skuyns. Est-ce que ce n'est pas là la solution, mais... Peut-être l'équipe qui va lui donner du fil à retordre. De toute façon, c'est l'équipe numéro 1 sur, on va dire, sur les classiques aujourd'hui, en termes d'effectifs.
Ouais, mais c'est l'équipe qui devait lui mener la vie dure. Maintenant, oui. Ces éléments sont un peu plus compliqués. Je te l'ai dit, hein, le but de Mathieu Van Der Poel, c'est d'user un maximum les coureurs lourds et leur faire dépenser le maximum de calories au cours de cette épreuve en lançant la course à chaque mont. Et malheureusement, les profils comme Jonathan Milan et Mats Pedersen vont un peu payer ce tribut. Donc la meilleure carte au petit jeu d'anticipation paraît quand même être un peu plus Tom Skuyns, et j'ai du mal à y croire. Et moi, je suis pas de cet avis-là. Je pense que maintenant, il a quand même un boulevard devant lui où justement les coureurs qui vont vouloir anticiper vont faire le jeu de Mathieu Van Der Poel en émaillant un peu le peloton et en diminuant les équipes qui devaient être en surnombre et qui devaient jouer le surnombre face à Mathieu Van Der Poel et son effectif. On risque d'avoir souvent des coureurs qui vont être seuls accompagnant Mathieu Van Der Poel. Et on trouvera toujours des coureurs qui vont vouloir rouler pour un podium parce qu'ils savent que la victoire ce sera compliqué, qui ramèneront le groupe. Regarde
un Nils Polite, tu veux dire.
Je pensais plus à un Stephen Kung. On l'a vu hein, moi dans les groupes à chaque fois comme ça où il y a des coups qui partent, Stephen Kung c'est le meilleur allié pour qu'il y ait une arrivée groupée. Donc il trouvera toujours ce type de courant en chemin et il trouvera toujours après le moyen de les laisser sur place et de ne plus les revoir. Plus la course est lancée de loin, mieux c'est pour Mathieu Van Der Poel et ça risque d'être le cas.
Tiens, Cactus, qu'est-ce que tu penses de Jonathan Milan? Parce que ça a l'air d'être un beau bébé, ça. Moi, j'en fais l'un de mes favoris hein, pour Paris-Roubaix, vu comment il roule comme un cinglé. Tu le trouves comment, ce coureur italien qui est en train de se montrer aux yeux du monde, même si pour les observateurs, on sait déjà qui c'est. Mais là, vraiment, il est impressionnant.
Pour Roubaix, c'est un gros outsider, je pense. Pour le Ronde, c'est quand même assez dur. Je pense pas... Enfin, ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit dans le top 10, quoi, Milan. Côté Lidl Trek aussi, un autre qui est tombé et qui s'est blessé et qui ne sera pas là, c'est Kirsch, qui avait fait top 10 sur le 3 aussi. Donc, pareil, pour une éventuelle course d'anticipation, c'est vraiment dommage pour eux.
Ouais. Il y a beaucoup de blessés du côté de la Lidl Trek. Il y avait des équipes qui étaient habituées aussi à ce genre de classique où être. À jouer les premiers rôles, c'est la Soudal, hein, Quickstep, hein, qui malheureusement a. Plus grosse déception pour moi de ces classiques. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la type. Peut-être que tu vas me répondre, mais je me pose la question de savoir, Kasper Asgreen, c'est quoi en fait? On parle d'un mec qui a su jouer les yeux dans les yeux avec un Mathieu Van Der Poel il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. Et là, vraiment, je ne sais même plus le nombre que c'est. Enfin, je ne sais pas, tout le collectif, il n'y en a pas un seul qui marche. Yves Lampaert, il a sauté à travers les Flandres. Il restait encore 60 bornes, je crois, alors qu'il n'y avait pas de difficulté. Enfin, je trouve ça complètement fou, la vitesse à laquelle cette équipe s'est complètement éditée.
Pour Soudal Quickstep, je ne serais même pas étonné si c'était Merlier le premier dans le classement final du Ronde.
Ah oui, d'accord.
Non, alors... Kasper, je pense plus à Kasper Pedersen, oui. Mais après, attention à Kasper Asgreen, hein, parce que l'année dernière, si tu te souviens, et il y a juste à ouvrir son Pro Cycling Stats pour le voir, il était invisible jusqu'à l'arrivée du Ronde. Hein. L'arrivée du Ronde où il va chercher une 7e place de souvenir. Donc attention à Kasper Asgreen sur ce genre d'événement, sur ce genre de course, et encore plus avec une concurrence qui a été étiolée en chemin. Ça peut faire quelque chose. Non, moi, l'effectif qui va me décevoir le plus, parce que j'en attendais des choses, et on n'aura pas Tom Pidcock. On a Narvaez qui est aussi éliminé. Les Ineos, franchement,
et pas de Tarling. Tarling n'est pas prévu aussi sur la liste, j'ai l'impression. Il n'y a que Magnus Sheffield.
Si, je crois qu'il est prévu.
Ok, d'accord, parce que j'avais vu sur la première start-list, il n'était pas dedans. Mais...
Mais Tarling, est-ce que tu en attends quelque chose? Ben justement, il va être un peu en remplacement de Narvaez. Ben Turner remonte en puissance, mais c'est pas encore ça. Donc, ouais, j'avais des espoirs, honnêtement, sur Tarling, pas sur le Ronde et sur Paris-Roubaix. Avec ce que j'en ai vu hier, je commence à avoir de bien maigres espoirs pour les Grenadiers.
En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on avait quand même une équipe capable de performer avec Van Aert. On a perdu Van Aert, donc la Jumbo va jouer tactiquement le coup différemment. On avait la Lidl Trek qui arrivait en super puissance, super. Et bien, on a perdu des coureurs. Et là aussi, on voit que dans les autres équipes, c'est compliqué. Là, Soudal Quick-Step, il n'y a plus personne. Du côté d'Ineos, pareil aussi. Pas de Pidcock. J'ai l'impression que ce Tour des Flandres, les concurrents sont au fur et à mesure affaiblis. Et c'est ça qui est dommageable pour cette course qui est ô combien difficile, on le sait. Cactus, toi, peut-être que tu voulais dire peut-être quelque chose sur cette concurrence, sur des coureurs qui, je ne sais pas, qui vont peut-être soit briller ou soit que dont tu attends un peu plus. On parle de Bettiol dans le chat. Peut-être, s'il n'a pas de croix.
Ouais, c'est ça, je suis en train de regarder la startlist. Les deux qui me viennent en tête, là, c'est Bettiol,
ouais.
Et Moritz, qui a été discret, mais ouais, qu'on sait qu'il y a un Moritz, si... S'il est motivé sur une journée, il peut être très très dangereux. Et après, voir les éventuels survivants de l'échappée, bah, typiquement comme Abrahamsen sur Dvars qui va chercher la deuxième place, des mecs comme ça qui peuvent aller gratter un top 5, un top 10, parce qu'ils ont beaucoup bien anticipé et qu'ils ont réussi à tenir.
Ouais, on parle de,
on sait jamais, ça peut être.
De Pity dans le chat, de Kung bien sûr, mais j'ai l'impression que...
Mais on peut en parler de cet effectif Groupama, parce que sur le papier, avec justement une Jumbo affaiblie, une Lidl Trek affaiblie, l'équipe Groupama, elle est séduisante. On a Madouas, on le sait, sur ce type de course d'usure, va très bien. Maintenant, est-ce que j'en suis convaincu pour cette année? Pas nécessairement, mais on a Stephen Kung qui nous a montré qu'il était présent sur toutes les classiques de ce début de saison. Et on a Laurens Pitty, dont on attend de très belles choses et qu'on a vu en forme du côté de Grand Vevel Game. Donc, même si la fin de course peut potentiellement peser dans les jambes de Pitty, il y a peut-être quelque chose à faire du côté de cet effectif qui est séduisant sur le papier.
Ouais, et puis il faut faire attention aussi pour Olivier Le Gac à rester sur la route, parce qu'il a passé un bon moment sur le trottoir. Il a été mis hors course d'ailleurs, le Français. Mais je voulais venir sur les Français, donc pas de la porte du coup, qui est la plupart du temps la plus belle carte française. Madouas, donc on l'a noté, c'est ça pour toi Cactus, c'est le coureur qui peut potentiellement s'approcher du top 10, parce que même un top 10 pour les Français, ce serait très très bien, j'ai l'impression, cette année.
Madouas, le problème, c'est qu'il est souvent assez en queue de peloton.
Ah bah ça.
Donc quand il tient bien, ça peut faire comme il y a 2 ans où il va chercher le podium, mais ça peut faire comme à l'E3 où bah il est piégé, il revient jamais, quoi.
Donc tu crois un autre Français peut-être?
Peut-être, j'allais dire, peut-être pas jusqu'à un top 10, mais j'attends de voir Gautra, qui a été pas mal sur... Enfin, qui a fait, il me semble, top 11 sur l'Omloop, top 11 sur Dvars,
qui était pas mal aussi. Top 11, maintenant, c'est la nouveauté.
Il a fait 11e, écoute.
Oui, il a fait 11e. Non, mais c'est juste que maintenant, depuis que Thibaut Pinot a prononcé cette phrase, voilà, maintenant, top 11, c'est devenu maintenant un superbe résultat. Mais oui, bien sûr, Gautra, ça fait partie des coureurs qui peuvent briller. Donc, tu disais oui, lui, et puis, t'en avais un autre ou c'était lui?
Bah là, les deux autres qui me viennent, c'est pas les Français, mais c'est les deux Italiens de Cerchia. Donc, Albanese qui a fait top 10 sur le 3, et Mozzato qui a fait pas mal de belles prestations aussi sur les Flandriennes. Donc, à voir. Pareil, ouais, ça c'est un peu dur, mais là c'est vraiment fond de top 10, top 15, quoi. C'est pas des candidats à la gagne ou même au podium.
Ah bah ça c'est sûr. Ouais, type,
t'oublies quand même deux Français. Il y en a un qui s'est montré sur le 3, qui était à l'attaque et qui a un peu pêché en fin de parcours, mais on le sait, il s'est mis à pleuvoir et c'est pas forcément des conditions qui lui conviennent. C'était Alaphilippe.
Oui.
Et il s'est déjà montré en plus sur le Ronde van Vlaanderen quand il était champion du monde. Donc est-ce qu'on peut en espérer de quelque chose? Le podium, ça paraît optimiste, mais un top 10, pas nécessairement, faut pas être nécessairement pessimiste. Et puis, on a Bini qui a chuté, qui devait être le leader et être épaulé par Adrien Petit, Laurens Rex et Hugo Page. Est-ce que Hugo Page ne remonte pas un peu dans cette hiérarchie du fait de la chute de Bini? Possiblement. Et ça reste un beau parcours pour le Français aussi.
Ouais, dans le chat, on dit propagande pour Loulou. Et évidemment, Julien Lafilippe qui a terminé dans le deuxième groupe derrière sur À travers la Flandre. Moi, je pense qu'il faut qu'il anticipe. J'ai l'impression que à Lafilippe, évidemment, la pédale, c'est compliqué de rester dans les roues, notamment de Mathieu Van Der Poel et des autres favoris. Mais une anticipation. Ça peut être bénéfique pour lui, bon, je l'espère. Et je vais maintenant passer au pari.
Ah, c'est même pas vrai.
Bon, direct, on met les paris, c'est vrai.
Les paris donc pour ce Tour des Flandres. Alors, je vais vous demander une belle cote parce que le vainqueur, on va souvent sortir Mathieu Van Der Poel. Qu'est-ce que vous avez à me donner? Est-ce que vous avez un petit podium d'un coureur qui peut être sympathique en attendant que j'aille chercher les petites cotes du jour?
Est-ce que je me lance dans la propagande Pity ou est-ce que je vais un peu plus safe?
Pity qui pour la parce que pour la victoire, Pity il est à tac tac tac. Ouh là là. Il est très loin, j'arrive même pas à le trouver. Donc
il est à 75.
Ah, 75, Lascano, Milan. Ah oui, à 75, en même temps que son coéquipier Madouas.
Non, je vais partir sur un des deux Emiretti. Je pense que ma question, en fait, c'est est-ce que Polite anticipe suffisamment et peut basculer, se faire rattraper et aller chercher une place, ou est-ce que je vais jouer la sûreté et prendre Wellens? Allez, Wellens.
Tim Wellens, donc, pour le podium, ça a été donné d'ailleurs dans le chat aussi, Tim Wellens, qui fait partie quand même des favoris. Hein. Moi, je l'ai à 40, il fait partie dans les 7-8 favoris, juste aux côtés de Asgreen. Alors, je ne vous conseille pas, après, encore une fois, on va dire il va sortir du bois, mais...
Ouais, voilà. Mais podium à 7,50, ça va, ça va, ça va.
On me dit, Salet 7 dit, si tu veux de l'argent, n'écoute pas Tib. C'est vrai que c'est vrai qu'il n'a pas tort.
Ouais, enfin, Salet, il part sur une propagande Madouas, hein. Attention. Hein.
Ouais, bon, et il y a du Lascano dans le chat aussi, Lascano que j'avais mis aussi sur le podium d'À travers la Flandre. Il a été un petit peu décevant, mais ça fait partie des coureurs qui peuvent être surveillés. Cactus, tu donnes qui? On me donne Toys Cuyins aussi.
Pour le podium ou comme surprise?
Bah, un podium, qu'est-ce qui tu podium, mettrais sur le podium pour accompagner Mathieu Van Der Poel? Parce qu'on le voit mal sortir les trois quand même.
Oh, je vais rester sur Mohoric.
Sur Moritz. Moritz, il est beaucoup plus loin hein, parce qu'il a été quand même assez transparent.
7,50 aussi. 7,50.
Moi, j'ai plus loin, moi, mais on n'a pas le. Évidemment, on n'a pas les mêmes sites.
Non, pareil. Mais tu vas sur.
Oui.
Est-ce que j'ai le droit de citer le book?
Bah, en fait, il faut en citer trois autres sinon. Alors, vas-y.
Ok. Bah, ça commence par W si tu veux.
Ah, ok. On va sur Thompson, W.
Patrick Bruel.
Ok.
Et très bah, bien. T'as les codes podium dessus.
Ah, il y a les codes podium dessus. Moi, comme on est sponsorisé, vous savez très bien qu'on a été sponsorisé par un autre site de Paris qui commence par un Z. Du coup, moi, j'ai pris l'habitude d'aller dessus. Mais c'est vrai que, voilà.
Ouais, mais eux, ils sortiront tard. Ils sortiront la veille, je pense.
Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, évidemment. Merci, les gars, d'avoir été avec nous. Merci à la team d'être en face à face avec moi aujourd'hui, avec les problèmes
et
de
du
voiture.
Coup, on rappellera que Wellens finira quatrième.
Oui, et on rappellera bien sûr que l'argent, vous ne le gagnerez pas en écoutant les paris de Saderail, mais peut-être dans le chat, on donne Albanese surprise top 3, Jorgensen top 3. Voilà, pour les paris qui sont peut-être plus intéressant ou plus facile pour se faire de l'argent. Merci. Merci à Cactus d'avoir été avec nous aussi aujourd'hui, d'avoir pu discuter. C'était un plaisir. D'habitude, on t'a dans le quiz et là, tu as été tout du long de l'émission. Merci à tous d'avoir participé, surtout dans le chat. Et puis, à très vite à la semaine prochaine donc pour débriefer ce Tour des Flandres qui s'annonce même alléchant. Salut à tous.
Allez, salut, salut.
Salut.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.